بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي على مشافر en islam nous remercions Allah عز وجل de nous donner ce soir, ce mardi soir, la possibilité donc de nous réunir dans la masjid après la salat accomplie en congrégation, dans le but uniquement de parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de consolider un point qui fait partie des bases de la foi du musulman, c'est al-imanu bil-yawm al-akhir, la foi en l'au-delà. Et comme on l'avait expliqué depuis le début, quand on parle du iman bil-yawm al-akhir, c'est tout ce qui a trait à l'invisible. Et cela commence par les événements qui sont en relation entre le monde de ce dunya et le monde de l'au-delà. Et les premiers signes de l'au-delà, bien sûr c'est la tombe, le rarara, l'agonie quand on est dans la tombe, mais également on peut considérer la venue des signes de la fin des temps comme faisant partie des points concernant l'au-delà. Et on avait donc commencé il y a pas mal de temps avec les petits signes de Qiyama. On avait passé en revue la plupart des petits signes de Qiyama de manière très brève et très résumée jusqu'à arriver au premier des grands signes de Qiyama. Et donc on avait commencé par la venue de Imam Mehdi qui est réellement le premier grand signe de Qiyama, car comme on avait dit, lorsque tous les petits signes se seront concrétisés, c'est là qu'Allah Azza wa Jal enverra Al-Mehdi. Et on avait vu également que la venue d'Imam Mehdi est un événement attendu par beaucoup de communautés. Alors on avait vu chez les Ahl Sunna, on avait vu chez les Rawafid, chez les Shia, on avait vu à peu près la conception d'Antéchrist et de Sauveur pour les Nasara de Imam Mehdi. Alors ce qu'on avait fait il y a quelques semaines, c'était de voir quelle serait la situation du dunya, quelle serait la situation du monde à la venue d'Imam Mehdi. Et on avait dit, premier point, tous les petits signes se seront produits, ça c'est déjà clair. On avait dit également que ce sera une époque où il y aura énormément de troubles dans la Ummah. Jamais la Ummah n'aura connu une telle période d'instabilité. Jamais la Ummah n'aura connu une telle oppression. Et quand on parle de la Ummah, c'est les musulmans. Jamais les musulmans n'auront connu une situation aussi difficile. Troisième point, on ne va pas reprendre. Troisième point, on avait dit également que ce sera une époque où il y aura beaucoup de séismes, beaucoup de tremblements de terre. Une question que je me suis posée il y a quelques jours, quand on parle de zalazil, de tremblements, est-ce qu'on peut inclure les tremblements de terre, les tremblements, ça ne dit pas tremblements de mer, c'est-à-dire les tremblements de terre sous-marins, Allahu a'lam, qui est à l'origine des tsunamis, Allahu a'lam. Ça, on ne s'avance pas. Mais bon, les hadiths disent bien que les tremblements, les explications disent bien que les tremblements de terre vont se succéder à la fin des temps. On avait dit également un point extrêmement important qui ne trompe pas, le décès d'un khalifa. Alors le décès d'un dirigeant musulman important et influent, et à partir de ce décès, apparemment il y aura du mal à trouver qui le succéder, et donc il y aura une période de trouble qui affectera l'ensemble de la population musulmane. Et on a vu également un autre signe extrêmement important, extrêmement probant, c'est lorsque trois personnes, ils sont tous issus de grandes familles, Ibn Khalifa, des fils de dirigeants, ils vont s'entretuer pour s'emparer du trésor de la Kaaba, et Allah Azza wa Jal les empêchera de toucher à la Kaaba, bien sûr. Et enfin, on avait vu un septième et dernier point, mais ça on a dit qu'il n'y a pas de source authentique, mais c'est cité dans certains hadiths, dans certains livres, au cas où si on le voit, sans pour autant qu'il n'y ait de source authentique, qu'arrivera juste avant la venue de Mehdi, il y aura certains troubles pendant le Hajj, il y aura des tueries énormes pendant le jour de Mina. Alors on rassure les gens qui vont faire Hajj cette année, ce ne sera pas cette année. Vous allez passer votre Ayya Mina tranquillement, Inch'Allah. Au plus, il pourra y avoir un peu de pluie, il pourra y avoir un peu de froid, il fera froid, mais ce ne sera pas cette année que viendra Imam Mehdi, parce que les autres petits signes ne se sont pas encore produits. Alors, d'où viendra Imam Mehdi, de quel endroit va-t-il naître? Ce sont là des informations qu'on ne retrouve pas dans les hadiths. Et c'est là la grandeur de notre din concernant les aqaïd et les croyances. Nous ne parlons que de ce que nous connaissons. Et quand il y a des choses qu'on ne connaît pas, on ne s'aventure pas. On ne s'aventure pas de des choses dont on ne maîtrise pas. Et c'est la grande différence entre notre religion à nous et la manière d'agir des Nasara. Les Nasara, ils ont essayé de trouver des réponses à des questions qu'ils se posaient eux-mêmes. Ils s'imposaient des contraintes et après, il fallait dénouer ça, trouver des solutions. Et après, au fur et à mesure, ils faisaient leur majlis, leur réunion des grands religieux, hein, d'accord. Et là, ils apportaient des réponses, jusqu'à ce que il y avait plus d'apport que de religion originale chez les Nassar. Et nous, musulmans, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, nous avons le Coran, nous avons les textes prophétiques commentés par les grands savants. Et lorsque les grands savants ne se sont pas prononcés sur certains points, ce n'est pas nous, petits savants, tout petits savants, hein, qui seront capables de nous aventurer sur des choses dont on ne maîtrise pas. Donc l'endroit où va naître Imam Mehdi, wallahu a'lam, mais ce qu'on sait, c'est qu'il habitera Madina Munawwara et qu'à un moment donné, il sera contraint, hein, de quitter Madina pour aller à Makkah. Et c'est à Makkah qu'on fera le bay'a, que les gens feront le bay'a sur la main de Imam Mehdi. Maintenant, quand tu as dit est-ce qu'il est de telle race, de telle origine, de telle couleur, ça on ne peut pas dire. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui essaie de s'approprier Imam Mehdi. On ne va pas citer toutes les tendances parce qu'on va peut-être heurter des sensibilités, mais pour rester un peu plus neutre, il y a beaucoup de gens qui disent que Imam Mehdi, de toute façon, il sera Hanafi. Mais c'est trop facile de dire ça. Ça, c'est du nombriliste. Hein, chacun essaie de dire qu'Imam Mehdi fera partie de notre race, de notre culture, de notre madhab. Pourquoi on ne dit pas qu'Imam Mehdi serait Gujarati, il mange Kalikichi, il ne faut pas exagérer. Et ce genre de propos, hein, on retrouve dans beaucoup d'endroits du monde. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient tellement qu'Imam Mehdi soit de leur communauté, soit de leur race, de leurs origines, etc., etc. Et donc, ils brodent un peu, ils essaient de s'approprier. Il y a plein de choses encore qu'on a entendues, mais qu'on ne citera pas. Mais bon, il ne faut pas plaisanter avec ces sujets. Ça, c'est un signe qui est important pour la race humaine. Je ne dis pas la race humaine, pour l'humanité, pour le alam. Parce que le dunya a été créé, il y a des cycles, et le dernier cycle de ce dunya, c'est quand Allah Ta'ala décide que ce dunya soit détruit. Et juste avant la destruction du dunya, Allah Ta'ala a décidé, et ça c'est depuis Adam alayhi salam, que les prophètes se relaient l'information. Certains connaissaient peu, ou quasiment, ou pas grand chose, d'autres connaissaient un peu plus, comme Isa alayhi salam, et le prophète alayhi salatu wasalam, bien sûr. C'est-à-dire des choses qu'Allah avait déjà prédit que le dunya ne sera pas détruit en une seule fois. De la même manière que ce dîn qu'Allah a envoyé pour le prophète alayhi salatu wassalam, ce dîn ne va pas disparaître, hein, de manière radicale. Il y aura des événements qui vont faire en sorte que cette religion va connaître des moments difficiles, et puis Allah Ta'ala va envoyer des signes pour relever le niveau et le izzat, l'honneur de ce dîn, jusqu'à arriver à un moment donné où il y aura le décès peu à peu des Ahlul Iman. Il y aura un moment aussi où il y aura un pic dans la pratique de la religion, c'est-à-dire à l'époque du Imam Mehdi. Après, il y aura des situations difficiles avec Dajjal, et puis il y aura de nouveau un pic avec la venue de Isa alayhi salam. Et puis il y aura beaucoup de morts avec la venue de Ya'juj et Ma'juj, beaucoup de difficultés. Et puis peu à peu, Allah Ta'ala décidera que le nombre de musulmans diminuera, mais progressivement, jusqu'à ce qu'il y ait ce vent qui reprend l'âme de chaque croyant. Et là, Allah Ta'ala va reprendre le dîn de ce dunya. Le Coran sera repris dans certaines sources, la Kaaba aussi sera repris. Il n'y aura plus de signe d'islam sur le dunya. C'est pas que la religion va affaiblir, non. C'est qu'Allah Ta'ala décide à un moment donné de reprendre son dîn pour que sa promesse ait lieu, que la fin du monde ait lieu sur les pires des makhlouqas, les pires des créatures. C'est des gens qui vont se reproduire comme des animaux dans la rue, et c'est des gens qui vont retourner vers l'adoration des idoles, comme c'était le cas des Arabes avant l'islam. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, que c'est des sujets extrêmement importants. On n'est pas en droit de s'approprier Imam Mehdi ou de s'aventurer à dire qu'on a fait munakat Imam Mehdi à tel endroit ou que dans tel hajj il va apparaître. Depuis qu'on est petit, on entend que ce hajj-là, Imam Mehdi va apparaître. Mais on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit, quel que soit notre niveau de dîn, notre niveau de science, notre niveau de religion, on n'est pas en droit de parler du dîn d'Allah, surtout quand on parle de aqidah, sans qu'on ait quelque chose de fiable, sans qu'on ait de source. Donc ça, c'est quand est-ce qu'il va venir, Wallahu a'lam, où est-ce qu'il va naître, Wallahu a'lam, mais il habitera à Madina, et il ira à Mecca, et c'est là-bas qu'aura lieu le bay'a. Maintenant, ça c'est le programme d'aujourd'hui, maintenant, comment reconnaître l'imam Mehdi? On a vu qu'il y avait des faux Mehdi, d'accord, mais celui-là, on ne peut pas le louper. C'est comme on a dit que c'est un signe qui est important pour l'humanité. Et donc, Allah Ta'ala décidera que Imam Mehdi sera reconnu par chaque musulman. et qu'il y aura unanimité sur la mission de l'imam Mehdi. Il n'y aura personne qui va se dire que non, ce n'est pas lui. À la limite, il aura des ennemis, oui, peut-être même des ennemis parmi les musulmans, bidoun chak, assurément. Des musulmans, des certaines armées qui vont essayer de le combattre pour prendre le khilafa de ses mains. Ça oui, mais qu'il y ait des gens qui osent dire que ce n'est pas lui, ou qu'il y ait divergence, ou qu'il y ait fitna. Qu'il y ait fitna dans la umma, certains disent que c'est lui, c'est pas lui. Non, ça n'y aura pas. Parce que c'est un événement important pour l'humanité, Allah Ta'ala décidera que ce sera quelque chose de visible. C'est-à-dire qu'Imam Mehdi, on n'aura pas besoin de le chercher, on n'aura pas besoin d'enquêter, d'essayer de voir les hadiths, est-ce que les hadiths s'appliquent sur cet homme? Non, ce sera quelque chose de bariz, quelque chose de visible et quelque chose de clair pour la totalité des Ahlul Iman et également pour ceux qui n'ont pas Iman et qui ont une certaine animosité contre les musulmans, ils vont connaître aussi que c'est là la venue du sauveur attendu par les musulmans et là de notre côté il y a des choses qui vont se mettre en place. Et d'autre côté aussi, il y a d'autres événements. Allahu Musta'an. Alors, premier signe, déjà pour reconnaître Imam Mehdi, c'est que c'est une personne qui ne demandera jamais à être calife, khalif. Il ne dira jamais que c'est moi, Imam Mehdi. Hein, il ne fera pas de démarche pour qu'on le reconnaisse comme Imam Mehdi. Comme on l'a dit dans le hadith, que les Ahl Makkah vont l'amener de force sur le matin pour faire son bay'a. Et lui, le hadith vient, ils vont le sortir de force alors que lui-même ne veut pas. Il ne veut pas qu'on fasse bay'a et on verra par la suite qu'il a fui Médine, il a fui Madina pour pas qu'on fasse bay'a sur lui. Parce qu'à Madina sera une époque où on aura déjà vu tous les petits signes et que maintenant les gens ils ont vu qu'un calife est mort, qu'il y a eu tel événement et que les petits signes d'avant aussi sont produits. Et qu'il y a un chaos exceptionnel, et les gens, là, ils vont savoir que c'est imminent. Et ils vont être à la recherche de cet homme. Et lui, comme il sait de quelle origine il est Fatimi, fils d'Al-Hussein, radiallahu anhu, et les gens, ils savent que, il sait bien que les gens risquent de porter bay'a sur lui. Et il va quitter donc Médine Munawwara, pour aller à Makkah. Mais donc, en aucun cas, ce sera quelqu'un qui proclamera être Imam Mehdi. Deuxièmement, ce ne sera pas non plus quelqu'un qui sera reconnu par les gens des années et des années avant. Comme on entend, comme on a dit tout à l'heure, quand les gens disent qu'on a fait son monarque. À partir du moment où vous entendez des gens parler d'une personne et dire que voilà, il est né ou ce sera lui ou autre chose, vous pouvez être sûr que ce n'est pas lui. À partir du moment où les gens disent que c'est lui, Imam Mehdi, ou qu'il est né, ou qu'on a fait son monarque, ben la personne dont il parle, on peut être sûr, on peut avoir la garantie, ça peut être n'importe qui, mais pas lui. Parce qu'il passera totalement inaperçu. Troisième point, on va aller un petit peu vite. Ça fait longtemps qu'on parle d'Imam Mehdi. Il faudrait qu'on termine. Il ne faut pas que nos programmes durent plus longtemps que son khilafa, hein, qui dure 7 ans. Troisième point, il y aura unanimité sur l'identité de Imam Mehdi. Hein, dans le hadith, il est dit, hadith de Tirmidhi, Yarda anhu sakinus sama wa sakinul ard. Les habitants des cieux seront satisfaits de lui et les habitants de la terre seront satisfait de lui. Parce qu'il est là pour une mission. Une mission qui lui a été confiée par Allah. Et cela veut également dire que Imam Mehdi, il est mansourun min Allah. Il a l'aide d'Allah avec lui. Tout ce qu'il va faire, toutes les décisions qu'il va prendre, ce seront des décisions mubaraka. Ce seront des décisions bénies par Allah et tout ce qu'il va faire sera pour le bien de la Ummah. Ce sera une personne qui, Inch'Allah, n'est pas un prophète, mais c'est quelqu'un qui ne se trompera pas. Parce qu'il est guidé par Allah, il a été Mahdi, il a eu la hidayah de la part d'Allah et il est là pour amener cette ummah vers le Izzat que cette ummah a perdu et qu'il n'a jamais perdu autant auparavant. Quatrième signe, pour être sûr que c'est lui, c'est le signe suivant, c'est le plus probant, les gens vont se précipiter, on retrouve l'opinion, c'est Sufyan al-Thawri, ouais, la citation de Sufyan al-Thawri, rahimahullah. Hein, il disait à un des émirs de l'empire abbasside, Abu Ja'far al-Mansour, il disait que « Wa in marra bika al-Mahdi wa anta fil bayti fala takhruj ilayhi hatta yajtami'a an-nas. » C'est pas du ça, hein? C'est le mot facile, ça. « Wa in marra bika al-Mahdi » Si tu entends parler du Mahdi, « Wa anta fil bayti » alors que tu es chez toi, « fala takhruj ilayhi » ne va pas à sa rencontre tant que tu ne constates pas que les gens ils ont commencé à s'amasser, à se précipiter pour faire le bien. C'est-à-dire que quand les gens vont le reconnaître, c'est par masse qu'ils vont venir pour porter le serment d'allégeance sur cet homme. Et le cœur des hommes, le cœur des gens, des musulmans, hein, ils seront, alhamdoulilah, le cœur des gens seront remplis de muhabba pour cette personne. Et il y avait une citation magnifique de Cheikh Abdus Salam, hein, il dit que « Innama yakhtaruhu Allahu, fa yakhtaruhu nasu faj'atan » Allah Ta'ala l'a choisi et donc les gens vont le choisir immédiatement. C'est-à-dire qu'il aura qaboul fil quloub. Les gens vont l'aimer immédiatement quand ils vont le voir parce qu'ils vont reconnaître absolument que c'est lui, Imam Mehdi. Et donc, comme on l'a dit, il sera aidé par Allah, il aura l'aide d'Allah parce que c'est Allah qui a décidé qu'à cette époque, les musulmans seront aussi avilis. Il y aura un tel avilissement, il y aura une telle situation difficile. C'est Allah qui a décidé que la pratique de la religion sera aussi difficile, que proclamer sa foi sera aussi compliqué. Allah Ta'ala aura décidé qu'il y aura autant de fitna de la Umma, et c'est ce même Dieu, ce même Rab qui décide que le izzat, l'honneur de sa religion sera relevé par le biais, par l'intermédiaire de cette personne. Et quand Imam Mehdi règne, on n'a plus à regarder les autres puissances. On ne parle même plus des autres puissances. Quand Imam Mehdi règne, il n'y a plus à dire qu'il y aura certains des puissances à droite, à gauche. Qui... Là, wallah. Dire que quand il va régner, ce sera une baraka spéciale pour l'humanité. Et le signe le plus probant, qui ne trompe pas, pour qu'on soit sûr que c'est lui, Imam Mehdi, c'est que lorsque les gens commenceront à faire le bay'a, à faire le serment d'allégeance sur Al-Mehdi, alors immédiatement, il y aura une armée qui viendra du Cham, des pays arabes, hein, une armée qui viendra du Cham, qui se lèvera pour aller combattre Imam Mehdi. Et cette armée-là sera immédiatement détruite par Allah Azza wa Jal, sans qu'il ne livre combat. Cette armée sera engloutie. Ça, j'avais déjà vu, cette armée sera engloutie, donc avalée par la terre, ensevelie donc. Et lorsque les gens vont voir qu'il y a une armée qui s'est levée contre lui, et cette armée n'a pas offert résistance, rien du tout, elle a été immédiatement ensevelie, donc avalée par la terre, là les gens vont reconnaître le signe que le prophète avait annoncé, qu'il annoncera le bay'a et une armée ira à sa rencontre, et cette armée sera détruite par Allah Azza wa Jal, et là les gens vont se précipiter pour faire le bay'a Imam Mehdi. Également, autre point important, lorsque les gens commenceront à faire bay'a, il y aura les plus grands, les gens les plus pieux de cette Ummah qui auront à sa rencontre. On parle des grands muttaqis, des waliullah qui viendront du Sham et de ce hadith de Imam Abu Daoud, si je me trompe, il dit que وَيَأْتِيهِ عِصَابُ الْعِرَابِ C'est-à-dire que les meilleurs des gens qui habitent dans la région de l'Irak, alors est-ce que c'est le même Irak de nos jours ou oui, Wallahu a'lam, de cette région donc, et de la région du Sham également, les gens les plus pieux, les plus grands, les gens qui ont le plus de iman, de ilm, de din de leur vie, ces gens-là, ils vont quitter leur pays, ils vont venir à Makkatul Mukarrama pour faire le bay'a à Imam Mehdi. Comme, je ne sais pas si on a dit que le bay'a se fera à Makkah sur le Mataf, bayn al-Rukni wal Maqam, entre le Hajj al-Aswad et le Maqam Ibrahim. Le bay'a se fera à cet endroit. Également, un des signes qui ne trompe pas, hein, qu'on verra, que les gens verront lorsque l'Imam Mehdi va apparaître, c'est que l'Imam Mehdi sera aidé par une. On trouve le hadith, hein, l'Imam Mehdi sera aidé par une armée un peu spéciale. Ce seront des gens qui auront un étendard rayat soud, un étendard de couleur noire. Et ça, en détail, on verra, Ashab Rayat Soud, qui sont-ils, hein, quelles sont les opinions des savants sur ces personnes-là, ça on verra par la suite. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est écrit dans le livre, que « Hatta idha tammatil bay'a wa ma rasa muhimmata » Lorsque les gens auront fait le bay'a, il commencera sa mission « Ja'a jayshum min ash-shami li muharabati » Une armée du Sham se lèvera pour aller à sa rencontre « Wa ma in yasilu al-jayshu ila al-bayda » Lorsqu'ils arriveront à un endroit, c'est près de Makkah qui s'appelle Bayda. Lorsqu'ils arriveront à cet endroit, Hatta yarsifullah bihim, Allah Ta'ala engloutira cette armée immédiatement. Et à ce moment, ya'riful qasi wa daniyan lahu al-mahdi al-muntazir. Et là, n'importe quel croyant, que ce soit un homme pieux, que ce soit un pécheur, n'importe qui reconnaîtra que c'est lui, Imam Mehdi. Fata'til wufudu limubayatihi. Et les gens viendront donc en troupe par délégation pour porter serment d'allégeance sur lui. Et la suite, وَيُؤَيِّدُهُ اللَّهُ بِنَاسٍ مِنَ الْمَشْرِقِ. Et Allah Ta'ala enverra son aide également par le biais d'une armée, رَايَاتُهُمْ سَوْدَا, qui auront des gens qui auront un étendard de couleur noire. Et ces gens-là permettront à Imam Mehdi de propager sa mission et de lui donner donc le quwwa, hein, toute la force qu'Allah Ta'ala l'avait donc prédestinée. Maintenant, comment se déroulera le bay'a? Je pense qu'on peut aborder ce point. Comment se déroulera le bay'a? Alors là, on va reprendre peut-être certains points d'avant et pour faire un bon résumé. Alors, premièrement, comme on a dit tout à l'heure, on va commencer dans l'ordre chronologique. Cet homme, Al-Mahdi, quitte Madina Munawwara et il va à Mecca. Dans les commentaires de Abu Daoud, il est écrit que, comme on a dit tout à l'heure, hein, il craindra que les gens de Madina Munawwara l'oblige à faire le bay'a. Et donc il ira à Mecca en pensant que les gens ne vont pas le reconnaître. Mais les gens de Mecca vont le reconnaître et les gens l'amèneront, comme on l'a dit tout à l'heure, au haram et l'obligeront donc à faire le bay'a. Donc c'est les deux points. Et après le bay'a, il y aura cette armée, ça on a déjà dit. Et, ouais. Et quand les gens donc vont voir cette armée, et là les gens ils vont venir en masse pour faire le bay'a sur Imam Mehdi. Fa'idara an-nas dhalik, lorsque les gens se rendront compte de cela. On cherchait un texte, on répétait la même chose. Hada. Voilà. Le bay'a sera obligatoire. Le bay'a sera wajib sur chaque musulman qui pourra aller à la rencontre de Imam Mehdi. Mais si on entend parler de lui et que géographiquement c'est loin, c'est difficile, alors il suffit de porter iman sur lui. Le hadith dit bien Fa'idara. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ. Et si vous le voyez, faites le bay'a, même s'il faut ramper, même s'il faut ramper sur la glace, sur la neige. فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي. Car c'est le calife, le calife d'Allah Azza wa Jal, c'est le Mahdi, rapporté par Ibn Majah. Voilà. Maintenant, quelles seront les sifats, les qualités des premières, on ne parle pas de la totalité de la Ummah, les premières personnes qui vont faire le bay'a, les premières personnes qui vont le reconnaître immédiatement, hein, il dit que le nombre sera égal à la iddati ashabi badr. Le nombre de ces personnes, de ces premiers bay'in, seront égales aux personnes qui étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam pour la bataille de Badr. C'est-à-dire à peu près 300 musulmans. À peu près 300 musulmans qui, en premier, feront le bay'a sur la main d'Imam Mehdi. Et ça rejoint notre hadith lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit que « Inna ashab Muhammadin alladhina kanu yawm Badr 310 ala adadi ashabi Talut. » Parce qu'il y a une autre comparaison dans le hadith qui dit que le nombre de personnes qui feront en premier le bay'a sur Imam Mehdi sera égal à ceux qui étaient avec Talut, hein, qui ont, c'est notre histoire, qui ont franchi le fleuve avec Talut, et ils étaient au même nombre que les Ahl Badr, c'est-à-dire à peu près 300. Ça, c'est les premières personnes qui vont le reconnaître. Et après les autres signes, après l'armée qui vient, l'armée qui sera engloutie, là, il y aura la totalité de la Ummah, voire la majorité qui feront bay'a. Maintenant, ça, c'est des événements qu'on verra par la suite, mais on peut annoncer, il y aura, comme on l'a dit tout à l'heure, des complications. Les complications, c'est quoi? C'est qu'il y aura une tribu parmi les Arabes, une tribu, on ne parle pas de l'Occident, l'Orient ou quoi que ce soit, une tribu parmi les Arabes, hein, on ne parle même pas de cette tribu, de cette armée qui a essayé d'attaquer, qui était en Occident, une autre tribu qui livra une bataille, Imam Mehdi. Il y aura guerre et il y aura donc victoire. Imam Mehdi aura toujours la victoire, ça c'est clair. Imam Mehdi ne peut connaître la défaite parce qu'il est aidé par Allah. On ne dira pas qu'il est aidé par Allah comme Allah a aidé le Prophète sallam, mais c'est une mission qui est comparable à toutes les missions prophétiques. Alors, cette tribu arabe, hein, elle voudra reprendre le khilafat de la main d'Imam Mehdi et ils vont demander de l'aide à une autre tribu arabe qu'on appelle les Bani Kalb. Alors, certainement, cette tribu existe toujours dans la péninsule arabe, Allahu alam. Fayab'athu ilayhim ba'atha. Et donc, ils vont s'unir avec les Arabes de Banu Kalb et ils vont envoyer une armée très puissante. Mais Imam Mehdi aura déjà la nusra d'Allah Azza wa Jal et Imam Mehdi aura la victoire. Et apparemment, ces Arabes-là seront des personnes extrêmement riches. Cette armée sera extrêmement riche et le ranima, hein, le butin qu'Imam Mehdi aura après cette bataille sera quelque chose d'exceptionnel. Et c'est là qu'il commencera à partager l'argent musulman. Parce qu'on verra que parmi les missions d'Imam Mehdi, c'est de donner un maximum d'argent à tous ceux qui le demandent, jusqu'à arriver à un certain point où on ne trouvera plus personne pour prendre la zakat. Tellement les gens, ils auront eu la baraka par les mains, ou barak, les mains bénies de l'imam Mehdi. Donc, les premiers barakas, les premières bénédictions viendront après la bataille contre les Arabes, aidés par la tribu des Bani Kalb. Et le prophète a même dit « Wal khaybatu limal lam yashhad ghanimata kalb » En ce sens, bien malheureux seront ces gens-là qui n'auront pas participé à cette bataille. Les ulama, ils expliquent dans le commentaire d'Abu Daoud que c'est terrible, c'est un encouragement à ceux qui seront présents à cette époque d'être avec Imam Mehdi pour livrer cette bataille parce qu'il y aura énormément de bienfaits. On terminera avec un dernier point. Allah Azza wa Jalla donnera donc la nusrat par le biais de cette armée avec les étendards noirs. Également, il y aura la nusrat par le biais d'un homme, on expliquera ça par la suite, qui s'appellera Al-Harith ibn Hurath, qui fera partie également des Arabes, et il apportera une telle aide. يمكن لآل محمد كما مكنت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. Non, j'ai dit parmi les Arabes, je me trompe. Cette tribu, cette personne, Harith bin Hurath, fait partie des gens qui viennent de l'autre côté du fleuve. En commentaire, on verra la prochaine fois. Si les ulama disent qu'il viendra peut-être un des pays de Bukhara, du côté de Bukhara, du côté de la Russie, les pays qu'il y a de cette région, c'est des gens qui vont venir depuis là-bas, ils vont venir à Makkatul Mukarrama pour apporter l'aide à Imam Mehdi. Il dit qu'ils vont apporter autant d'aide que les Quraysh avaient apporté de l'aide au prophète alayhi salatu wassalam lors de sa mission. Et c'est ces gens-là qui vont vraiment élever Imam Mehdi, qui vont faire en sorte que c'est lui qui sera vraiment le imam, qui lui donnera toute sa force par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont là, ça c'est le déroulement des différents événements. Là on a vu comment le reconnaître, on a vu comment se déroulera le bay'a, l'ordre chronologique, jusqu'à ce que les gens le reconnaissent et qu'il fera l'unanimité dans toute la Ummah islamia. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir le plus important, sa mission. Quelles sont les choses qu'il va accomplir? Comment ramènera-t-il par la grâce d'Allah l'Izzat à cette Ummah? Et quelles difficultés il va rencontrer également? Et comment sera la nusrat d'Allah pour Al-Mehdi, et comment la Ummah va connaître la plus grande baraka qu'elle n'ait connue depuis l'époque peut-être de Umar ibn Abdel Aziz et depuis notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et on essaiera de voir dans ce qu'on a comme texte comment se déroulera les 7 années de son khilafa, et quand on parle de la fin du khilafa, cela coïncidera avec la venue de Dajjal. Donc après ça, après la prochaine fois, on va emboîter immédiatement avec la venue de Al-Masih Al-Dajjal. Donc on va terminer avant de et clôturons, on en est à 28 000, alhamdoulilah. Vous savez également qu'on est aujourd'hui on est, subhanallah, on est presque le premier là, non? On est le 25. Donc dans 5 jours, inshallah, dans 5 jours, dans 4 jours, nous serons donc le premier Zilhijjah. Ça c'est un rappel qu'on fait tous les ans, mais c'est un rappel qui est profitable. Nous savons quelle est l'importance du mois de Ramadan. Il ne faut pas oublier que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que afdalu ayyam id-dunya ayyamun 'ash, les meilleurs jours de ce dunya, c'est ces 10 jours-là. Les ulama disent que ce sont les 10 jours de Dhul-Hijjah. Ils ont certaines sources que ikhtar Allah az-zaman fa ahabbu az-zaman ila Allah ash-shahr al-haram. Allah Ta'ala, les mois qu'il préfère, c'est les mois sacrés. Wa ahabbu al-shahr al-haram ila Allah, les mois sacrés les plus aimés par Allah, c'est le mois de Dhul-Hijjah. Et parmi Dhul-Hijjah, Allah Ta'ala préfère donc les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et lorsque Allah Ta'ala fait le qasam du Qur'an al-fajr wa layalin 'ash, les ulama disent que cela concerne les 10 jours de Dhul-Hijjah. Jusqu'à même que certains savants sont d'avis que les 10 jours de Dhul-Hijjah ont plus de valeur que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Il y a différentes opinions là-dessus, mais c'est déjà pour nous donner une idée. Si nous avons un groupe de savants, grande quantité d'ulama, ils sont d'avis que les 10 Dhul-Hijjah ont plus de valeur que les 10 derniers jours de Ramadan, ça veut bien dire que c'est quelque chose de spécial. Et leur argument, c'est quoi? C'est que les 10 derniers jours de Ramadan, sa valeur se trouve dans Laylatul Qadr. C'est une nuit parmi les 10 jours, les 10 nuits de Ramadan. Tandis que lorsqu'on parle des 10 Dhul-Hijjah, c'est les 10 jours qui ont autant de valeur. Du premier jusqu'au 10e, les 10 jours, toute la décade, a une valeur spéciale pour Allah Azza wa Jal. Et les actions dans cette décade, c'est les actions les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith qu'on a déjà entendu maintes et maintes fois. Ma min ayyamin, il n'y a pas un jour de l'année, al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Il n'y a pas un moment de l'année où les actions sont plus aimées par Allah que durant ces 10 jours de Dhul-Hijja, hadith rapporté par Imam Bukhari. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire comme action? Ben, le maximum de bonnes actions, d'une manière générale. Bon, nous connaissons le hadith qui parle des vertus du jeûne, du jour de Arafat. Et on va poser une question à Iqbal, un hafid Iqbal, hein, jeûner le 9e. Arafat, c'est le combien de Dhul-Hijja déjà? Yeah. Le 9e. Taïf. Qu'est-ce qui est mieux? De jeûner 8, 9, 9, 10 ou 8, 9, 10? Deux jours. Il y a beaucoup de gens qui confondent le jeûne du Arafat avec le jeûne de Muharram. C'est pas pareil. Lorsqu'on parle de jeûne de Arafat, ça n'a aucun rapport. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Est-ce qu'ils ont fait le 8e, 9e, 9e, 10e? Et déjà, 9e, 10e, on ne peut pas jeûner. Le 10e, c'est pas crédible. C'est haram de jeûner. Jamais ma somme ne sera pas gênée. Combien de bœufs j'abatte à faire? Il ne gagne pas, d'accord? Donc, il ne faut pas qu'on se trompe hein, sur ces deux dates. Lorsqu'on parle de Somme et Arafat, c'est le 9e de l'Hijja. Il est masnoun de jeûner pour celui qui ne va pas au Hajj. Les masakin, les pauvres musulmans, hein, ceux qui n'ont pas été choisis par Allah, qui n'ont pas les sifas nécessaires pour aller à Arafat en ce jour, ben ils seront là en train de pleurer, mais ils vont jeûner avec l'espoir qu'Allah Ta'ala les accorde certaines récompenses, Inch'Allah. Dans certaines sources, il y a ikhtilab, dans certaines sources, il même dit que le prophète jeûnait les 9 jours de l'Hijja, du 1er jusqu'au 9e. Wallahu a'lam. Donc, bon, ça, c'est pas. Il n'y a pas unanimité là-dessus, mais je suis d'avis que, comme il y a certaines sources, si quelqu'un a la force, il a la possibilité de jeûner, alhamdulillah, c'est tant mieux. De toute façon, d'une manière générale, il faut faire un maximum de bonnes actions dans les 10 de l'Hijja. Et si on jeûne, alhamdulillah, nourun ala nour. Également, ce qui est masnoun, c'est de faire beaucoup de dhikrullah, hein, comme les hujjaj, wa yadhkuru smallahi fi ayyami ma'lumat, comme les hujjaj, hein, comme. Fa'akthiru, à la suite du hadith d'Ibn Umar, fa'akthiru, lorsqu'on parle des vertus de ce jour-là, faites donc beaucoup de tahlil, wa takbir, wa tahmid. Lisez beaucoup la ilaha illallah, lisez beaucoup Allahu Akbar, et dites beaucoup subhanallah. Et donc, concernant, oui, avant qu'on oublie, le jeûne du jour d'Arafat, vous savez que le jour d'Arafat, c'est certainement un des jours les plus importants de l'histoire de l'islam. Un tel point que Umar, radiallahu anhu, une fois, avait une conversation avec un Yahoud, un juif, qui lui avait dit, Ya Amir al-Mu'minin, lorsqu'il était cas, il dit, oh, chef des croyants, il y a un, on va dire en français pour aller plus vite, il y a un verset dans votre livre, Law alayna ma'ashara al-Yahoudi nazalat. Si nous, dans la Torah, on avait un tel verset, l'attakhazna dhalika al-yawm a'ida, on aurait fait du jour de la révélation de ce verset un jour de Eid. C'est-à-dire que vous avez un verset de le Coran, si nous, Yahoud, on avait le même verset dans la Torah, dans notre Torah, alors, chaque année, le jour de la révélation de ce verset, on aurait fait de ce jour un Eid. Et Omar a dit, Ayyi aya, quel est donc ce verset? Il a dit que, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati. Lorsqu'elle a atteint le Coran, qu'en ce jour, j'ai pas la traduction exacte, akmaltu lakum dinakum, j'ai parachevé votre religion, wa atmamtu alaykum ni'mati, et que Allah Ta'ala a comblé un de ses bienfaits. Et là, Omar dit que je jure par Allah que je sais exactement quel jour ce verset est descendu et à quel endroit. Elle dit que ce verset est descendu alors que le prophète alayhi salatu wassalam était debout le jour de Arafat, Yawm Jum'ah, le jour, un vendredi, le jour de Arafat. C'est le seul hajj, je vois ça en fait, c'était donc un vendredi. Elle dit que c'est le jour de Arafat que ce verset est descendu. Donc c'est vraiment le jour le plus important du calendrier, donc sur le plan historique. Et le fait de jeûner le jour d'Arafat, hadith de Abu Abi Qatada, dit que siyamu yawmi Arafat, jeûner le jour d'Arafat, ahtasibu ala Allahi, j'ai espoir qu'Allah Ta'ala, an yukaffira sanat allati qablahu wallati ba'da, qu'Allah Ta'ala, par le biais du jeûne du jour d'Arafat, pardonne les péchés de l'année précédente et Inch'Allah, les péchés de l'année qui va venir. Donc ça, le musulman doit au maximum jeûner le jour de Arafat, hein, avec ce ihtisab, avec cet espoir de rétribution et ce yaqin qu'Allah Ta'ala pardonnera nos péchés précédents et les péchés pour l'année qui va venir. C'est tellement simple de faire un jour de rosa, de jeûne, et quand on voit comment Allah Ta'ala est généreux, on vient de vivre Laylatul Qadr, Allah Ta'ala deux mois et demi après nous accorde un autre événement aussi important. Si nous ne prenons pas compte de ces événements, subhanallah, nous risquons fortement de le regretter le jour où nous serons devant la balance et chaque musulman sera à la recherche d'un atome de bonne action où chacun essaiera de se débarrasser d'un atome de péché. Qu'Allah nous accepte. Alors, avant de clôturer, donc, on aura nos hujjaj qui vont partir d'ici quelques jours. Et nous demandons à chaque personne, on a eu l'occasion de faire un programme à Saint-Louis, de faire passer le maximum de messages à chaque hujjaj. Et s'il y a des hujjaj qui sont de cette assemblée de Saint-Denis, n'oubliez pas, on aimerait que chaque pèlerin ait une pensée spéciale pour notre amir qui nous a quittés il y a 2 semaines, Marhoum Bachir Boudania, qui nous a quittés il y a 2 semaines. Et on rappelle que Marhoum Bachir, c'était le président de la commission du Hajj, la commission de pèlerinage, sous la tutelle du CSCM. Et c'était mon amir également, c'était avec lui qu'on a travaillé depuis 1 an et demi qu'on préparait la venue des diplomates qu'on avait annoncé il y a 3 semaines. Et par la grâce d'Allah, il a fait un travail énorme, exceptionnel. Et bismillah, par la grâce d'Allah, ensuite par les efforts de cet homme et tous ceux qui travaillaient ensemble dans la cellule, alhamdoulilah, on a pu accueillir les diplomates. Et ils sont venus, ils ont fait 4 jours à la Réunion. Et chaque réunionnais a pu avoir son visa ici, à Saint-Denis. Et ça, c'est un événement extrêmement important. Et nous espérons que ce genre d'initiative sera pérennisée, inshallah, que pour les années à venir également, on aura toujours... Déjà, c'est une reconnaissance. Notre île est reconnue sur le plan international, est reconnue par le ministère de Hajj, le ministère des Affaires étrangères saoudien, et que nous existons à part entière. On n'a plus besoin de passer par l'île Maurice ou par les ambassades Kenya, Nairobi ou Pretoria ou autre chose, qu'on les reconnaît, alhamdoulilah, et c'est une grande facilité pour les musulmans de l'île de la Réunion. Faites droit que cette initiative perdure dans le temps et que d'année en année sera encore plus facile d'accomplir le Hajj. Également, regardez le taqdir, la destinée. Subhanallah, comment Allah Ta'ala organise des choses. Une personne comme Bay Marhoum Bachir, il fait autant d'efforts pour que ces gens viennent. Et quand ces personnes arrivent, le lendemain, Allah Ta'ala décide que son ruh quitte le dunya et que son ruh retourne auprès d'Allah. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu de ses yeux le résultat de son travail. Et ça, c'est le taqdir. On n'aurait pas pu avancer un jour, ni reculer un jour. On n'a même pas à dire que si seulement, ou si ce n'était pas arrivé ou telle chose, Allah a décidé de la sorte. Et donc, ils sont arrivés un jeudi, si je ne me trompe pas, Marhoum Bachir décide un samedi, si je ne me trompe pas. Et donc, le samedi matin, je vais voir ces gens-là. Et samedi, c'était le jour où, on ne va pas faire de publicité, mais c'est le jour où le groupe Gercher devait avoir le visa. Il y avait un jour de travail pour chaque groupe, et c'était leur jour à eux. Et les Kodjas se sont joints à nous ce jour-là. Et subhanallah, là, ce matin-là, on a annoncé aux diplomates que notre amir, qu'ils n'avaient pas rencontré, est décédé. Et depuis ce jour-là, subhanallah, un de ces deux personnes, il faisait en permanence le doigt, dit qu'Allah Ta'ala le récompense pour chaque hajj, pour chaque réunionnais qui va faire le hajj, Allah Ta'ala lui accorde une part de leur récompense. Donc nous demandons à chaque personne qui sera présent à Makkah, à Madina, à Arafat, à Mina, à Muzdalifa, ayez une pensée pour cette personne, qu'Allah Ta'ala lui accorde un haut grade de le Jannah, que sa tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis, et qu'Allah Azza wa Jal accepte bien sûr votre hajj, et que ceux qui n'ont pas pu y aller cette année, qu'Allah Ta'ala nous appelle, nous aussi nous donne les sifat pour pouvoir y participer. Et une petite anecdote que j'ai envie de vous raconter, après qu'on ait fait ce qu'il y avait à faire en termes de travail, etc., alhamdulillah, on a eu la possibilité d'amener ces personnes à visiter un petit peu l'île de la Réunion, voir un peu les différents endroits, le sud, le nord, l'est, l'ouest, alhamdulillah. Et le premier jour, on était parti d'aller haut, de Salazie, Elbourg, dans l'est, d'accord, on était un peu d'aller haut. C'était un peu après ça, on était dans un kiosque près d'une rivière qui coulait, et on avait amené le qahwa, on avait préparé le qahwa, ils buvaient. Et subhanallah, c'était la première fois de leur vie qu'ils voyaient une telle atmosphère, avec montagne, verdure, une rivière qui coulait. Alors c'est des gens qui ont été dans différents pays, le diplomate qui était là, il était 7 ans attaché consulaire à l'Arabie, à Rome. Donc c'est des gens qui ont voyagé, qui ont connu la vie occidentale, qui connaissent peut-être le dunya mieux que nous. Mais ils ont dit qu'alhamdulillah, autant de ni'amat, de beauté en termes de khalq, de création, ils ne l'ont jamais vu dans les 21 pays qu'ils ont parcourus. Et donc on était à cet endroit, pour revenir à ce moment précis, cette personne m'a dit quelque chose qui m'a profondément touché. C'est une réalité, c'est des choses qu'on connaît. Mais quand quelqu'un vous le présente dans un autre contexte, ça fait un déclic et vous vous rendez compte et votre iman augmente, votre yakin en Allah augmente. Il dit que subhanallah, il dit Ibrahim, regarde, on est là en ce moment. Moi, je viens de Domatul Jandal, c'est dans le nord de l'Arabie. Lorsqu'on collègue venait de Riyad, il dit toi, tu es de Saint-Denis, de la Réunion. On est ensemble là et on est en train de parler un peu de dîn. C'est quelqu'un qui connaît énormément le hadith, subhanallah. On est en train de parler d'Allah Azza wa Jal. Il dit que dans un endroit perdu comme votre île, dont on ne connaissait peut-être pas l'existence, dans ce petit village de cette île, on est en train de parler d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est là. Concrétisation de l'annonce du prophète alayhi salatu wassalam, que cette religion arrivera dans le cœur de chaque personne, cette religion, elle atteindra toutes les contrées, tous les continents. Il dit que regarde, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a fait la première da'wah extérieure, c'était où la première da'wah extérieure? C'était à Taif. La première fois que le prophète est sorti de Makkah pour la da'wah, c'était pour aller à Taif. Lorsqu'il est arrivé à Taif, vous savez l'histoire, le prophète sallam n'a pas été bien accueilli, les gens n'ont pas accepté la da'wah, et c'était, et subhanallah, celui qui parle, le diplomate, il est originaire de la tribu des Banu. Comment on appelle les gens Taif? Les Banu? Les Banu? Comment? Ya, cher! Pour revenir à faire un tour, m'adresse à les Banu? Ben non, les Banu Saqif. Les Ahli Taif, en majorité, c'est les Banu Saqif. Et il est originaire, il est descendant des Banu Saqif. Subhanallah, c'est-à-dire descendant de ces gens qui auraient pu être maudits et détruits tout de suite par le prophète. Lorsque l'ange lui dit que si tu veux, on les écrase ben al-Akhshabayn, ben entre les deux montagnes, le prophète m'a dit non, Allah Ta'ala donnera la guidée aux gens qui vont venir après. On a déjà eu l'occasion de parler de Ahl al-Taif. De nouveau, Taif, c'est la ville des Hay'a Kibar al-Ulama. Le majlis des muftis d'Arabie, c'est à Taif. Il se retire là-bas. Et c'est pour ça qu'on n'entre pas n'importe qui peut aller à Taif aussi. Il y a des endroits qui sont réservés, c'est les grands savants, les grands muftis de Mamlaka, les Aïma qui vont. Bref, c'est-à-dire qu'on reste ce village qui aurait pu être détruit si le prophète sallam avait agi avec passion, il a été rejeté, refoulé, il a été blessé, insulté, il aurait pu dire, oh Allah, détruis ses oppresseurs. Comme d'autres prophètes, ils ont pu maudire leur peuple avant Allahu A'lam. Mais le prophète, son cœur était rempli tellement de mahabba que regardez le doigt qu'il a donné, c'est la concrétisation. C'est un village maintenant musulman, il y a quelqu'un issu de cette tribu qui vient à 7000 km pour donner visa à des gens qui vont aller vers Baytullah. Et il me disait donc, pour revenir à l'histoire, lorsque le prophète a dit aux Banu Saqif, aux gens de Taif, que ce din atteindra toutes les contrées de ce dunya. Ils se sont moqués de lui. Ils disent, oh Mohammed, comment tu peux oser dire ça alors que nous sommes tes plus proches voisins? Il dit que la première ville habitable, c'était Taif, plus proche de Makkah, 100 km à peu près. Il dit que nous, les plus proches de toi, nous te refoulons. Alors maintenant, comment tu peux rêver à ce que ton message passe dans d'autres continents, dans d'autres populations? Tu dis n'importe quoi. Il dit, subhanallah, son doua a été accepté, les Ahlul Taif sont devenus musulmans, mais dans le monde entier, ce dîn est arrivé. Aujourd'hui, je suis là avec toi, dans cet endroit, subhanallah, en train de parler du dîn d'Allah, subhanallah. Mais l'histoire de Taif, tout le monde le connaît. Les enfants, ils apprennent ça en classe 7, la suite. Maintenant, faites la relation. Faites la relation, ce que le prophète m'a annoncé et ce que nous vivons, vous voyez que c'est un mu'jiza. C'est une annonce, c'est un miracle prophétique et nous le vivons. Personne n'aurait pu prédire une telle chose il y a 1500 années. Même les plus grands politiciens, les plus grands philosophes, ils ne peuvent pas prédire que leur mouvement sera suivi par autant de gens jusqu'à la fin du temps. Personne ne pouvait dire une telle chose. Et un deuxième petit point, ça c'est un peu plus agressif, mais j'aime bien. Lorsqu'ils sont venus faire la salat al-Jum'a, hein, donc ils sont venus en civil. Ils sont venus en civil, c'est-à-dire, lorsqu'ils sont venus, ils avaient la tenue, hein, le kafni, le chimar, le châle rouge, la panoplie. Ils sont diplomates. D'accord? Mais ils ont des consignes. Quand ils sont à l'étranger, ils ne doivent pas mettre leurs vêtements traditionnels. Ils doivent s'habiller comme les gens de la ville pour passer inaperçu, pour ne pas attirer l'attention. C'est clair, si quelqu'un il marche sur le châle rouge, marche sur le club, bon, on va voir. Hein. Et puis, ce n'est pas le moment de se faire remarquer. Hein. Surtout à notre époque, avec tout ce qu'on entend depuis quelques jours, ce n'est pas le moment. Et subhanallah, j'ai eu vent de certaines personnes qui disent, ouais, ben, le costume. Costume pour marcher le chemin, et même costume pour venir à Masjid. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, hein, nous sommes attachés à des choses vraiment petites. Hein, nous ne voyons pas loin. Il suffit que mon frère musulman ne porte pas un kafni, qu'il mette une chemise, pour que je vais porter un jugement. Aïe, 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 c'est pas ça. Ça veut dire que la même personne, s'il avait mis un kafni comme moi, on aurait dit que, ah, mashallah, c'est des grands bozos qui viennent d'Arabie. C'est quoi notre dîn? Est-ce que le dîn est basé sur un kafni d'affa? Un kafir asri, la shiaka, où le dîn est basé sur les qualités que le mu'min a dans le cœur. Et c'est ça un peu, le Afrawala, il pense un peu comme ça. Hein. Il faut qu'il y ait la panoplie, il faut qu'il y ait l'apparence extérieure pour qu'on dise que c'est un bouzjou. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Quantité de personnes qui sont aussi bien habillées que moi, avec une barbe aussi grande, voire plus grande que moi, Wallah musta'an, le font, Allah seul le sait. Donc c'est pas parce que quelqu'un est habillé en chemise, pantalon, qu'on va dire que c'est pas un muttaqi. Et ce n'est pas parce qu'on va voir quelqu'un qui a toutes les apparences qu'on va dire que c'est un waliyullah. Attention, ce qu'il y a dans les cœurs, c'est Allah seul qui sait. Ce qui est important, c'est quoi? Il faut arrêter de juger les gens. Il ne faut pas juger les gens, on n'a pas le droit. Subhanallah, ne juge pas les gens. Le iman, c'est dans le cœur. Je ne suis pas en droit de dénigrer quelqu'un ou d'élever quelqu'un juste parce que je le vois habillé comme ci, comme ça. Ça ne veut strictement rien dire. Et dans les quelques jours qu'on a passés ensemble, je ne peux pas vous dire le nombre de hadiths qu'il m'a enseigné. C'est un diplomate, ministère des Affaires étrangères, il n'a pas fait d'études religieuses, mais un degré de ilm, un bagage en connaissances religieuses, subhanallah, des choses qu'il m'a appris en roulant, subhanallah, je me suis dit que c'est une belle leçon pour nous, pour qu'on comprenne bien qu'il ne faut pas juger les gens, hein, comme dit la Bible, il ne fait pas le moine, wallah, c'est la vérité. Hein, il ne faut pas se baser là-dessus, il faut apprendre à respecter son prochain et à se dire que le iman, c'est dans le cœur et je me dois d'apprécier mon prochain parce qu'il a là, il a l'Allah de son cœur, quelle que soit son origine, sa couleur, sa manière de s'habiller, on est frère dans l'islam. Quand on accepte, hein, quand on donne la réalité du iman, quand on donne vraiment la mahabba, hein, l'amour, l'entraide et le ukhuwa, la fraternité que, comme les sahaba, ils avaient à leur époque. Et puis également, je pense que jusqu'au Bakr, on ne va pas refaire encore un programme. Le Eid ou l'Adha, c'est un événement important du calendrier musulman, d'accord, mais il faut bien comprendre, hein, il faut bien faire la part des choses entre le symbolisme de l'action, le fait d'égorger le bœuf, le cabri, le mouton, et l'objectif vraiment, c'est rechercher le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je n'aime pas trop l'ambiance bœuf, je n'aime pas. Il y a des gens qui vivent pour ça, qui ont la passion du bœuf. Moi, subhanallah, quelqu'un il fait son udhiya, hein, il donne s'il peut ici, s'il fait ailleurs, ça, le sacrifice, mais il ne faut pas que ça devienne une compétition. Que Shaitan il entre dans une action extrêmement importante. Le sacrifice d'Ibrahim al-Islam, c'était quoi? C'était égorger son fils pour Allah. C'est-à-dire, je donne ce que j'ai de plus cher pour Allah. C'est le plus grand signe de ikhlas. C'est-à-dire que notre ikhlas doit être concentré dans ce qurbani. Alors attention, gardez ce qurbani comme une forteresse. Faites en sorte que Shaitan ne trouve pas une petite faille pour y pénétrer. Qu'il n'y ait pas un atome de ria, d'ostentation, ou de vouloir faire voir aux gens de sum'a ou de shuhra. C'est-à-dire ostentation par le regard, ostentation par les oreilles, ou par les paroles, il paraît que l'île a tient un gros bœuf, etc., etc. D'accord? Faites en sorte, je ne mets en doute personne, wallahi, mais qu'on doit être extrêmement certain. Maintenant, si quelqu'un va acheter un bœuf énorme, subhanallah, et que son but c'est d'offrir à Allah, par le biais du sacrifice, ce qu'il y a de mieux, en se disant que Allah Ta'ala, il est pur, il n'accepte que ce qui est beau, ce qui est pur. Alhamdulillah, nourun ala nour. On a fait le sacrifice et on a donné ce qu'on a de mieux, ce qu'on aime de plus. D'accord? Mais maintenant, faire bien la part des choses entre le symbolisme et la recherche de la piété, du contentement d'Allah et la sincérité. Et puis, il ne faut pas que par le biais de ce genre de amal salih, de cette bonne action qui doit nous rapprocher d'Allah, il ne faut pas qu'il y ait des débordements. Des débordements comme quoi? Comme des événements qu'on a entendus avant dans différents endroits, que quand le bœuf débarque, hein, il paraît, moi je ne vais pas voir ce genre de choses, d'accord, il paraît qu'il y a autant de monsieur que de dames. Et que les femmes qui viennent, les jeunes filles qui viennent, elles s'habillent comme pour un Eid ou pour un mariage. C'est-à-dire qu'on se pare, se maquille, se parfume, met des plus beaux vêtements pour aller voir un bœuf descendre d'un camion. Et ça, je ne sais pas, mais moi, je suis désolé de voir notre mentalité, d'accord? Et quand les filles, elles se font... De nos jours, vous savez, les maquillages, n'importe qui peut venir. Vous prenez un melon, une citrouille, vous maquillez, c'est bien, d'accord? Maintenant, j'exagère un petit peu, mais avec autant d'importance que les dames, les femmes, les filles vont donner pour venir ça, pour voir le bœuf débarquer, l'objectif derrière ça, vous voyez bien, c'est quoi? Hein, il y a d'autres choses. Il faut éviter ça. Faire en sorte que, maintenant, on ne peut pas empêcher les gens de venir, mais il ne faut pas que ça devienne un fait d'actualité ou un événement. Puis comme les Noaïma, ils disent bien, il ne faut pas bloquer la route, ça, bon, c'est des choses que vous connaissez, ne pas donner taqif. Mais moi, ce que je dis, qu'il faut revenir à l'esprit de ikhlas, de sacrifice, de muhabbat d'Allah, d'amour pour Allah, de donner ce qu'on aime à Allah, Azza wa Jal. Il ne faut pas qu'avec ça, il y a d'autres péchés qui viennent, des fitna. On va faire zina du regard, on va parler avec des femmes étrangères. Il y a même eu des événements l'année dernière où monsieur et madame étaient... Vraiment, il y avait proximité, promiscuité, complètement, ils étaient à côté et tout. Ça, il ne faut pas. On est en train de participer à une bonne action. Il ne faut pas qu'avec ça, non seulement Shaitan, il vient de manière apparente par ses péchés, mais également par le biais de l'ostentation. Bref, de manière générale, on doit faire en sorte que ce Qurbani soit vraiment un événement important et qu'on y concentre notre muhabba, l'amour pour Allah et la sincérité. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal d'accepter le sacrifice que chacun va faire et que notre amour pour Allah augmente et que l'objectif du sacrifice se ressente dans notre vie. Qu'après avoir fait passer notre dunya ou donne pour Allah, je dois être capable de faire passer l'amour d'Allah avant toute chose. Si j'étais capable d'acheter un bœuf qui coûte cher pour Allah, ça veut dire que je peux faire passer l'amour d'Allah avant n'importe quelle chose de ce dunya. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil izzati.